Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque samedi pour une heure de débat avec les grandes voix historiques d'Europe 1. L'actualité de la semaine décryptée, analysée avec un peu de recul, ça fait pas de mal à travers votre regard, vos regards expérimentés, le regard toujours aussi vif et affûté de Catherine Ney, la gouaille sans pareil de Gérard Carrérou, l'analyse décapante de Charles Villeneuve, le franc-parler et l'œil riailleur de Michel Cotta. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour
Sébastien.
Au sommaire aujourd'hui, cette question, est-ce le retour de Jupiter ?
D'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé en France à tous les Français adultes qui le souhaitent un vaccin.
Interview surprise d'Emmanuel Macron sur TF1 lundi soir. Nous analyserons ce changement de stratégie dans la communication. Deuxième débat du jour, un projet de loi potentiellement explosif.
Notre pays est malade. Malade d'un séparatisme dont le premier d'entre eux, le séparatisme islamiste, gangrène notre unité nationale.
Gérald Darmanin, cette semaine à l'Assemblée, il faut savoir nommer la maladie, il faut trouver les médicaments, ajoute le ministre de l'Intérieur. Nous verrons si le remède est bon. Et puis, Navalny, la Russie et l'Europe.
Il y a une situation en Russie qui est très grave. Il y a une dérive autoritaire manifeste avec, en particulier, ces arrestations préventives.
Le constat sans appel sur Europe 1 du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Poutine défie l'Occident. Peut-il y avoir un gagnant ou uniquement des perdants ? Ce sera notre dernier thème du jour avant votre coup de projecteur consacré à Étienne Moujotte. Bienvenue sur Europe 1, le débat des grandes voix, c'est parti. La communication politique sous la 5e République, les grandes voix, vous connaissez mieux que quiconque, c'est tout un art. Et cette semaine, on a quand même été surpris. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui s'invite mardi soir sur TF1 à la dernière minute pour une interview. Personne n'était au courant, ou presque. C'est plus fort que lui, Michel Cotta, il cherche à casser les codes.
Oui, vous dites le retour de Jupiter. C'est plutôt la volonté d'échapper à une solennité. Là, on voit très bien comment la solennité, ça ne marche pas. On dit effectivement tout de suite pour qui il se prend. Et puis là, au contraire, au dernier moment, avec un journaliste politique qui n'est pas une vedette,
qui n'est pas sans intérêt,
enfin, moi j'ai trouvé que c'était effectivement une façon de s'adresser aux gens. Alors peut-être qu'il n'avait prévenu personne, j'en sais rien. Mais moi, je préfère cette façon de s'adresser aux gens plutôt modeste, plutôt égalitaire. Je veux dire, il n'était pas sur un piédestal et le journaliste en dessous. Je trouve que c'est une bonne communication. En revanche, je suis souvent contre les communications ex cathedra, avec des drapeaux derrière et tout ça. Bon, voilà. Mais ça, c'est peut-être un point de vue personnel.
Sauf que Emmanuel Macron avait prévenu, certes, son Premier ministre, Jean Castex, qui était en même temps à une visioconférence avec ses ministres, mais qui lui-même ne l'a pas prévenu. Et donc, ils ont découvert, les ministres, membres du gouvernement, cette interview au dernier moment. Ça vous paraît normal ?
Oui.
Non, mais en fait, c'était en suspension et TF1 était quand même prévenu que peut-être le président parlerait. Mais c'était lié à la durée d'une réunion à l'Élysée avec les industriels des vaccins, les médecins et tout ça. Bon. Et moi, je crois aussi que le président qui devait parler dimanche et qui a laissé parler son Premier ministre vendredi, ça le démangeait. Surtout que le Premier ministre ayant annoncé qu'il n'y avait pas de reconfinement et que c'était l'idée du président, je crois qu'il a voulu parler parce qu'il avait une bonne nouvelle à annoncer, vous voyez. Et là, maintenant, ce n'est pas tellement Jupiter qu'il joue le grand bleu. Vous savez, après le confinement, où on est descendu bas et tout ça, il pense que le terrain est en train de s'ouvrir pour que des choses s'améliorent. C'est-à-dire qu'on va avoir des vaccins, on va avoir des centres de vaccination, que peut-être que si ça marche... Donc, il faut remonter par palier. Donc là, il annonce que voilà, toutes les personnes qui le voudront pourraient être vaccinées. Et donc, on va sortir peu à peu comme ça. Et il avait envie de parler parce que c'est plus fort que lui. Mais il faut dire que là, aujourd'hui, la moitié des Français ne savent pas qu'il a parlé mardi. Ils ne le savent toujours pas.
Oui. Le grand bleu, Gérard Carrérou, il est en apnée,
d'abord,
Emmanuel Macron.
Une chose, c'est qu'on voit qu'on est vraiment bien sous la 5e République. Pourquoi ? Parce qu'on a un président de la République qui change de ton et de communication, ça c'est un fait, c'est vrai. Et d'un seul coup, en 24 heures, la petite musique politico-médiatique dans le pays change. Alors, je ne dis pas que les médias ou que l'opinion est suiviste, mais je constate. On était dans le goulag, enfin, le goulag, c'est-à-dire la semaine alarmiste avec les déclarations, avec ce titre du JDD, reconfinement imminent, etc. Et puis toutes les déclarations ministérielles. Et tout d'un coup, c'est le beau temps. Alors,
le beau temps, c'est-à-dire qu'il prévient, on aura un vaccin voilà. Non, avant la fin de l'été pour tous les Français
positif,
qui le souhaitent.
C'est-à-dire qu'on passe du goulag à la liberté tout d'un coup. Et tant mieux, s'il a raison. C'est un pari que je trouve audacieux et courageux. Audacieux s'il le réussit, c'est-à-dire si il faut la complicité du virus hein, pour qu'il réussisse. Il faut que les variants soient un peu suivistes par rapport à ce qu'il a dit. Parce que si, effectivement, ils ne le sont pas, ça ne marche pas. Mais si ça marche, tant mieux pour la France et tant mieux pour les Français. Mais il y a eu un changement et quand on fera l'histoire dans quelques temps de cette crise, on dira, ben oui, il y a eu un moment donné, clac, le soleil.
Si ça marche, vous dites Gérard Carrère, Charles Villeneuve, si ça marche, c'est-à-dire que là, il fait pression, il annonce une vaccination pour tous avant la fin de l'été, il fait pression sur les labos, Emmanuel Macron, il promet de nouveaux sites de production, il décide de ne pas reconfiner. C'est quand même un pari risqué.
Non, mais moi, je crois plutôt qu'il a tiré la leçon de ce qui s'était passé deux semaines auparavant avec, si vous voulez, la pression permanente du président du Conseil scientifique qui n'a pas supporté tout ça et la salve des ministres qui avaient, si vous voulez, pris le sillage, justement, du président du Conseil scientifique. Et donc, il a voulu donner le « là », et notamment sur les vaccins. Parce que sur les vaccins aussi, qu'est-ce qu'on entend sur les vaccins? Et c'est pour ça qu'il a mis sous tension la bureaucratie de la Haute Autorité de la Santé, qui sont donc chargés d'acheminer et de distribuer les doses. Or, on sait très bien que dans les villes, eh bien, c'est un peu tout et n'importe quoi. Évidemment, c'est une information qui lui est remontée. On sait qu'il y a des villes qui s'étaient occupées en Pfizer parce qu'on leur avait dit que c'est le vaccin Pfizer, et donc ils avaient acheté des congélateurs pour conserver les doses à moins 70 degrés. Et puis tout d'un coup, on leur dit « Non, vous n'aurez pas de Pfizer, vous aurez du Moderna. » Bon, Moderna, c'est moins 20 degrés. Bon, c'est possible, évidemment. Et puis maintenant, vous avez un troisième vaccin et qui n'a pas besoin de toute façon de tout cet équipement. Mais il faut savoir que dans les mairies, ce sont les mairies qui payent tout, qui achètent les congélateurs, qui achètent les seringues, etc. Et ils sont désorientés. Et par les préfets, évidemment, ça lui est remonté au président de la République. Donc, il a voulu le là et de mettre en tension la bureaucratie de ceux qui sont chargés, justement, de distribuer les doses. Et quand il a donné ce là, si vous voulez, vous avez pu remarquer que tout le monde a suivi. Derrière, la communication, tout d'un coup, non seulement on va pouvoir vacciner d'ici la fin de l'été, mais... Et c'est vrai que c'est un pari.
Ce qu'avait dit déjà, en substance, Olivier Véran, il s'était peut-être un peu avancé il y a quelques semaines.
Non, mais ce qui est sûr, c'est ce que dit Catherine, c'est que, au fond, les mauvaises nouvelles, il les a laissées, demi-mauvaises nouvelles, c'est le Premier ministre. Alors là, il a dit, il n'y a pas de confinement, tout le monde a poussé un ouf de satisfaction, mais enfin, quand même, il n'y a pas de confinement, enfin, il y a des mesures.
Il y a un renforcement des restrictions.
Bon, c'est vrai que, Si on veut être candidat à la présidence de la République dans un an, il vaut mieux apporter des bonnes nouvelles. Donc c'est politique, c'est vrai que c'est un choix courageux, parce que si ça tourne mal, c'est lui qui sera le premier responsable. Ça, il n'y en aura pas d'autre, hein, pour le coup. On ne dira pas Jupiter ou pas Jupiter.
Oui, mais pour l'instant, Michel, il a à faire face, faut résoudre le problème aujourd'hui et pas
juste,
en 2022.
Je finis juste
si
sur, la,
donc,
finis juste
si,
sur la politique.
La dimension est multiple
non, mais attends,
de la crise.
La dimension est multiple, mais je finis juste sur la politique. C'est un pari qui est un pari politique. Essentiellement, c'est moi qui dis les bonnes nouvelles. Et donc, j'ai une chance. Alors, on est d'accord. 2022, ce n'est pas aujourd'hui.
Non.
Mais il est évident que c'est très proche, c'est très près. Et qu'il vaut mieux, dans ce cas, être quelqu'un qui aura amené la bonne nouvelle que quelqu'un qui n'a redit que les mauvaises.
Oui, mais c'est un, Michel, oui, non, c'est un pari que je maintiens.
Ben, c'est ce que j'ai
c'est
dit
un
aussi,
pari mais... qu'il faut réussir, parce que sinon...
Oui. Ben, oui.
Et le précédent de François Hollande et de son pari sur le chômage, à peu près un an et demi ou deux ans avant l'échéance ne lui a pas réussi, si j'ose dire, puisqu'il l'a porté comme une croix jusqu'au moment, jusqu'au moment où il a dit je peux, enfin il a convenu qu'il pouvait pas se présenter. Donc pour le président de la République, alors évidemment on le sait depuis l'Antiquité, les porteurs de mauvaises nouvelles finissent toujours par être tués. Mais il faut donc être, il faut être le porteur de bonnes nouvelles. Il est là le porteur de bonnes nouvelles. À un moment donné, il faut réaliser ce qu'on a promis.
Catherine Dess, ça veut dire qu'il est déjà en campagne pour 2022, Emmanuel Macron.
En tous les cas, cette décision, il l'a faite contre les experts, parce qu'il y a les médecins, qui d'ailleurs ne disent plus rien, qui le conseillaient, lui disaient « vous n'y arriverez pas ». Bon, mais lui, il a réuni ses industriels, des vaccins, et il a vu que d'ici... D'abord, il croit que d'ici 4 à 5 mois, il y aura une baisse. Il y a les analyses des eaux usées, qui sont en avance de 10 jours, lui donnent des résultats satisfaisants. Il y a un taux de contagion,
En Île-de-France, ça a baissé. Voilà, néanmoins, le variant augmente.
Donc, il veut retenir que les choses qui sont favorables, qui sont optimistes, mais tout en disant aux Français d'être responsables. Il dit « je compte sur vous ». C'est un partenariat, quand même. Il appelle les Français à être responsables. Il ne lâche pas tout. Et puis, moi, je crois qu'il a beaucoup écouté Brigitte Macron, qui reçoit énormément de lettres de gens qui lui disent leur malaise. Et donc, elle fait une analyse émotionnelle de cette crise à laquelle, jusqu'ici, seuls les scientifiques répondaient et donc ne répondaient pas. Donc, c'est une à la fois, vous voyez, c'est l'influence. Et donc, il a voulu donner un espoir.
Il est devenu super good cop face aux trois bad cop qui étaient
Véran,
Castex et le professeur qui a disparu, d'ailleurs.
Voilà. Mais il voit aussi qu'en Italie, on réouvre peu à peu, par paliers. Donc, il s'inspire aussi de ce modèle-là.
Le super good cop, on continue à en parler dans un instant de ce changement de stratégie, de communication, ce pari risqué. Juste après cette petite pause, à tout de suite, les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1. Europe 1. Sébastien Guyot.
Et à 10h20, le débat des grandes voix se poursuit avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. On parle de ce changement de stratégie de communication chez Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut porter ses fruits? Ce côté jupitérien qu'on évoquait au début du débat, ça irrite quand même au sein même de la majorité. Je vous propose d'écouter Yaël Braun-Pivet. Elle est présidente de La République En Marche de la commission des lois à l'Assemblée. Voilà ce qu'elle déclarait chez nos confrères de Sud Radio cette semaine.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait créer un organe vraiment ad hoc dédié à la crise sanitaire, donc un conseil de défense sanitaire, exactement à l'instar du conseil de défense écologique. Et la transparence dans les décisions et la transparence dans les raisons qui ont motivé cette décision. Donc, transparence dans les documents, accès aux informations qui font que le gouvernement prend telle ou telle décision.
C'est le Conseil de défense, clairement, qui est visé ici, Charles Villeneuve. Le manque de transparence démocratique peut-il coûter cher à Emmanuel Macron?
Je n'y crois pas un seul instant à ce que vient de dire la présidente de la Commission des lois. Je vais vous dire, les Français n'ont aucune envie de rentrer dans le détail des choses. Les Français, ce qu'ils souhaitent, c'est que les centres de vaccination reçoivent le nombre de doses prévues et que tout se passe bien. Les Français veulent de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité sanitaire. C'est ça que veulent les Français. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voulons, nous sommes des patients comme les autres, c'est ce que nous souhaitons. Donc, moi, je ne crois pas du tout à un agenda, etc., etc. Vous savez, on parle de Jupiter, ou Zeus. Bon, il descendait de l'Olympe, de temps en temps, aussi, dans la mythologie grecque. Bon, et lui, il est bien obligé, il fait face à une crise majeure qu'aucun président de la 5e, sauf De Gaulle, avec la guerre d'Algérie, n'a eu à faire face. Michel Cotta. Il faut qu'il résolve cette crise.
Effectivement, c'est très important, mais je trouve que c'est révélateur, la réaction de la présidente de la Commission des lois, est révélatrice, d'un malaise à l'intérieur de La République En Marche. Au fond, c'est la petite politique, ça. Mais enfin,
c'est le malaise de toutes les majorités.
Voilà, c'est le malaise de toutes les majorités. Et c'est révélateur.
Exactement.
d'une espèce de drôle de sentiment de ce que doit être un président de la République sous la 5e République. Il s'entoure pour faire ça. Il n'est pas obligé d'avoir l'ensemble du Conseil des ministres. Il n'est pas obligé de rendre des comptes tous les jours à l'Assemblée nationale. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est d'ailleurs pas comme ça qu'il faudrait que ça marche.
Alors,
on ne peut pas avoir les avantages de la 5e République et tous les inconvénients de la 4e.
Et elle s'est d'ailleurs fait taper sur les doigts par Christophe Castaner dès le lendemain.
Mais ce qu'il n'imaginait pas, le président, vous voyez, quand pour ses vœux, il citait les héros du jour et il citait Morissette, comme une femme qui était la première qui s'était fait vacciner, comme si c'était une héroïne parce que elle avait osé se faire vacciner parce qu'ils pensaient que les Français ne voudraient pas se faire vacciner. Or, ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas en France 66 millions de procureurs, comme il disait. C'est que 60 millions de Morissette, ils veulent tous se faire vacciner. Parce que tout le monde pense aujourd'hui, et en même temps, parce que tout le monde pense aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule lumière à la sortie du tunnel, c'est le vaccin.
Oui, il y a deux paramètres. Pour résumer notre discussion, je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. Il y a deux paramètres. Il y en a un sur lequel le président de la République a peu de prise. C'est le paramètre du virus et de tout ce qui va derrière, c'est-à-dire les variants, le développement des variants, etc. Ça, je dirais, c'est peut-être le ciel qui décidera. Mais il y a le deuxième paramètre, et là, il est effectivement important pour le président de la République de s'être mobilisé, c'est la campagne de vaccination. Parce que si on ne tient pas, vous savez, quand on dit aux Français, attention, tous ceux qui veulent être vaccinés, le seront à la fin de l'été, si j'ai bien compris, la fin de l'été, c'est en septembre.
C'est ça.
Hein, bon, si j'ai bien compris, à moins
la fin de l'été, c'est le 21 septembre, c'est le début d'automne.
À moins qu'on prolonge l'été. Rien n'est changé.
Donc, si on arrive, s'il y arrive, les Français, effectivement, sont anxieux et envie de se faire vacciner. Si on y arrive, il aura gagné, je ne dis pas qu'il aura gagné la bataille, il aura gagné une des batailles importantes de la réélection.
Parce que c'est une des batailles de l'opinion aujourd'hui, puisqu'une majorité de Français critiquent la campagne vaccinale. 71%.
D'accord, mais si vous parlez d'opinion, alors pour le coup, tous les sondages montrent qu'il a pris plusieurs points. Que Emmanuel Macron a gagné des points. Moi, je ne crois pas forcément au sondage, mais quand ils vont tous dans le même sens, alors je ne sais pas si les Français critiquent. C'est d'ailleurs un paradoxe incroyable. Oui, les Français critiquent, oui, ils ne font pas tout à fait confiance à la stratégie telle qu'elle est définie, mais en tout cas, Emmanuel Macron et même le Premier ministre est plutôt conforté par sa stratégie actuelle. Ça peut surprendre le paradoxe entre les deux, mais enfin,
mais
c'est le
une
cas.
Moitié, c'est une surprise de. Si, enfin, pour ma part, à moitié. Parce que finalement, où est l'opposition? Quel est le plan? Quelle est la contrepartie? Quelle est la proposition de l'opposition pour sortir de cette crise, qui est majeure et qui est multiple surtout, économique, sociale, politique, morale? Et donc, cette absence-là fait que, évidemment, le socle du président de la République est renforcé.
Oui, tant qu'il n'y aura pas une politique globale proposée par un candidat crédible, éventuellement, pour dans 15 mois ou dans 18 mois, tant qu'il y a, et ça, on ne l'a pas. Ça, on peut chercher à la loupe partout. Il n'y a pas le candidat qui a exprimé, sur les divers aspects que Charles vient d'énumérer, une contre-politique. Comme à l'époque où Mitterrand allait à l'Assemblée, allait annoncer une politique qui était différente de la politique des premiers ministres de Pompidou ou des premiers ministres de l'époque. Et c'est ça qui faisait la force. On disait, au moins, il y en a un qui nous dit des choses.
Mais parce que c'était facile à l'époque.
Oui, non, mais je ne dis pas que c'est facile aujourd'hui.
Il y en a un qui tenait les caisses fermées, l'autre qui les ouvrait. Donc il y avait une politique facile.
En tout cas,
c'était pas la même Europe, c'était pas la même chose.
Il y a peut-être l'offensive de Gérard Larcher qui a marqué quand même la semaine dernière, où effectivement, pour une fois...
Pourquoi ça vous fait sourire, Catherine?
Mais non, parce que je n'avais pas remarqué.
Gérard Larcher s'est remis au centre du jeu, et il incarne, en tout cas, à travers sa sortie de la semaine dernière, ce que dit Michel, a juste raison, il incarne le début, si vous voulez, l'esquisse d'une opposition.
Et le début d'une autre politique. Le début, qu'est-ce qu'on fait après? C'est le premier qui a dit, qui considère que le problème est réglé alors qu'il ne l'est pas, mais c'est le premier qui a dit comment on rembourse après.
Enfin, il s'est mis au centre du jeu. C'est devenu le plus petit commun dénominateur pour l'opposition.
Oui, mais enfin, l'issue a été extrêmement malheureuse.
Mais il a beaucoup de bon sens.
Alors, c'est pas normal qu'il y pense aussi, puisque personne n'est là.
Ou non de contre-projet politique sur la crise du Covid, c'est un débat. En revanche, il y a des contre-projets de l'opposition, que ce soit des Républicains ou du Rassemblement National, sur le projet de loi séparatisme qui est en débat actuellement à l'Assemblée nationale, et ce sera le thème de notre prochain débat des Grandes Voix, juste après cette petite pause.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Bientôt 10h30 sur Europe 1 déjà avec ce débat des Grandes Voix et à présent ce dossier éminemment politique et potentiellement explosif. Le projet de loi sur les séparatismes, qui ne porte plus d'ailleurs ce nom, c'est le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Les mots ont un sens, Gérard Carrérou, la sémantique est importante. C'était le bon choix de changer de mot?
Les mots, à la limite, je dirais, c'est même si c'est important, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'était qu'il y a eu un discours présidentiel fort, qui était le discours sur le séparatisme. Là, on prononçait bien le mot de séparatisme.
Séparatisme islamique, islamique, qu'il dit bien sûr. À Mulhouse.
Oui, tu as raison.
Au Mureau,
le 2 octobre 2020. Séparatisme islamique. Et c'était prometteur. Prometteur, je dirais, d'un acte fort de la République contre, effectivement, le séparatisme. Il y a eu aussi un élément intéressant, qui était le livre de Darmanin. Je ne l'ai pas lu entièrement, mais j'ai lu un certain nombre d'extraits de ce bouquin. Et c'est un livre fort, également, qui montre une volonté politique, etc. Alors, quand on a considéré ces deux choses, la troisième, c'est-à-dire la loi, le texte de la loi, que Michel et que Charles ont lu dans le détail, moi, je ne l'ai pas lu.
Les 53 articles et les 2650 amendements, Michel, vous avez
lu? Bien que je n'ai pas lu dans le détail les 53 amendements, bon, je considère quand même qu'il va dans le bon sens sur plein de choses, sur les associations, sur un certain nombre, les mosquées, etc. Toutes ces choses, le financement, dans le bon sens. Mais il manque quelque chose. Elle est orpheline, me semble-t-il, cette loi. Orpheline d'un acte fort qui marquerait, un marqueur fort, comme on dit maintenant, qui marquerait qu'on s'oppose véritablement, qu'on résiste à l'islamisme et à son idéologie.
Vous pensez à quoi ?
Je pense, le voile est venu, le voile des fillettes. Pour moi, c'est devenu un symbole, et je pense pour beaucoup de gens. Voir dans les rues de nos cités des petites filles de 5 ou 7 ans qu'on a forcées, parce qu'elle ne peut pas me dire qu'elles l'ont choisi, qu'on force à porter le voile, alors que le voile est devenu un étendard politique. Oui. L'étendard politique de l'islam radical dans nos villes de France. Eh bien, ne pas vouloir aborder une députée de la majorité, deux députés
Berger.
Même,
Aurore Berger,
avait voulu le faire, et on lui a dit c'est hors sujet. Eh bien non, c'était pas hors sujet. Alors, écoute... C'était en plein dans le sujet, oui. Et on aurait dû le traiter.
Alors, c'est ce que disait Éric Ciotti à l'Assemblée nationale cette semaine. Écoutez ce qu'il disait.
Vous n'avez pas fait une charte de la religion catholique, que je sache. Vous n'avez pas plaidé pour une charte de la religion juive, pour une charte de la religion protestante. Donc c'est bien là, monsieur le ministre, qu'il y a une difficulté. Arrêtons d'avoir un propos dissimulé. Soyons francs, c'est là où il y a le sujet. On n'a pas eu un attentat depuis 2012 au cri de Jésus revient quand même dans ce pays.
Et écoutez la réponse de Gérald Darmanin cette semaine sur Europe 1.
On mentirait si on disait aux Français que si on stoppait l'immigration, on stopperait le terrorisme. Trois quarts des gens qui ont commis des attentats en France sont français.
En substance, ce que veut dire le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger et ne pas stigmatiser non plus les musulmans.
Oui, ouais. D'accord, mais Darmanin a raison. C'est vrai, on est d'accord, il ne s'agit pas de stigmatiser tous les musulmans, notamment les Français musulmans, beaucoup, beaucoup. Ne sont pas des adeptes de toute façon du séparatisme. Alors, encore que séparatisme est un mauvais mot, parce que c'est pas ça. Ils font de l'entrisme surtout, pour détourner, contourner les lois de la République. C'est ça ce qui se passe. Tout l'islam, c'est vrai, n'est pas l'islam politique. Mais ce qui est troublant, dérangeant, c'est qu'il faut faire très attention que l'islam radical ne devienne pas l'islam dominant. Et un sondage, rappelez-vous, montre qu'il y a un vrai danger. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Dans une enquête menée en août 2020, pas très longtemps, cet été, par l'IFOP, à l'occasion du procès de ceux qui ont soutenu, rappelez-vous, les frères Kouachi, ceux qui ont tué toute la rédaction de Charlie Hebdo. Eh bien, 29% des Français musulmans, 36% chez les hommes, 23% chez les femmes, et 45% des moins de 25 ans ont approuvé la proposition que l'islam était incompatible avec les valeurs et les lois de la société française. Il y a quand même un problème fondamental parce qu'il y a une confusion entre le civil et le religieux. Et c'est cela que le ministre de l'Intérieur doit guetter, si vous voulez, et qu'il doit prendre en compte en permanence. Parce qu'il ne s'agit pas justement de faire de ces Français musulmans ceux qui n'adhèrent pas à l'islam politique. Il ne s'agit pas de les stigmatiser pour faire naître un racisme et une xénophobie.
Michel Cotard.
Mais c'est bien tout le problème. La loi, effectivement, reflète ça. Dans son discours des Mureaux, effectivement, le président désigne le séparatisme islamique. Ceci étant, dans les exposés des motifs de la loi, l'islamisme radical demeure. Donc, dans l'exposé, on voit nettement ce que c'est. Mais on comprend très bien comment, dans un souci de ne pas ostraciser tout le monde, la loi est effectivement... trop prudente sur certains points et à la fois très sévères sur d'autres, et notamment sur ce qui concerne quand même tout ce qui est les associations, la haine en ligne. Bon, on voit comment, si on n'a pas pris le voile, c'était justement pour ne pas faire de cette loi une loi concernant tous les musulmans. On a pris la loi qui peut concerner effectivement les islamistes radicaux.
Catherine Ney,
d'où une loi à minima.
Sur l'interdiction du port du voile pour les fillettes, portée par Aurore Berger, membre de la majorité.
Oui, moi, ce que dit Gérard, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que c'est un signe politique d'appartenance à une communauté qui ne veut pas, qui ne s'est pas assimilée, qui ne veut pas s'intégrer, et qui est régie par la loi islamique. Et d'ailleurs, Boualem Sansal, qui est un grand écrivain algérien et qui dit que la France ne comprend pas toujours ce à quoi elle est confrontée, il dit que Allah ordonne à chaque musulman, où qu'il soit dans le monde, d'œuvrer par tous les moyens à l'expansion de l'islam. Et cette guerre, il l'a fait au monde entier, aux musulmans qui n'appliquent pas la charia, aux chrétiens, aux juifs, aux athées. Et Samuel Paty, il a été tué par un tchétchène qui, lui, était endoctriné et a voulu venger Allah à cause des choses. Donc, c'est ça aujourd'hui
qui fait
peur.
Oui, mais on est en plein dans le sujet, Catherine. On est en plein dans le sujet. C'est vrai qu'on peut dire que tout l'islam est une religion politique. Ça a toujours été une religion politique. Moyennant quoi, la nécessité en France, où il y a quand même 6 millions de musulmans, de réserver une possibilité à certains musulmans d'intégrer la République comme ils l'ont fait et de les séparer de ceux qui justement veulent le séparatisme, c'est tout le problème et c'est toute la difficulté.
Oui, mais c'est à eux de le dire aussi.
Permettez-moi de répondre là-dessus. On peut pas, dans tout conflit, il y a deux phases. Il y a la phase d'affrontement et éventuellement après la phase d'apaisement. Or, l'islam politique a déclaré la guerre à la République. Il l'a déclaré sous des formes variées. L'une, la pire d'entre elles était les attentats terroristes. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et la République, on a l'impression que la République ne veut pas évoquer les choses qui fâchent. Que la République prône l'apaisement. L'apaisement en soi, c'est bien. Apaiser une communauté qui représente des millions de gens dans notre pays, c'est bien. Mais il ne faut pas éviter l'affrontement au profit
cette
de
loi
l'apaisement.
N'est pas apaisante.
C'est ça que je
reproche. On
ne
peut pas dire que la loi
projet.
Est apaisante. La preuve, c'est.
On continue à l'Assemblée nationale. On va continuer à en parler dans un instant sur est-ce qu'elle est apaisante ou non, cette loi sur les séparatismes. Une des lois les plus importantes du quinquennat, selon Jean-Michel Blanquer. Une atteinte aux libertés pour d'autres. On va en débattre juste après.
Les grandes voix d'Europe 1. Sébastien Guyot.
De retour dans ce studio avec Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Le débat des grandes voix jusqu'à 11h. On parle du projet de loi sur les séparatismes. Et vous évoquiez tout à l'heure le discours d'Emmanuel Macron au Mureau le 2 octobre dernier. Petit rappel de ce qu'il disait.
Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. Le problème, c'est cette idéologie qui affirme que ses lois propres sont supérieures à celle de la République. Forcé de constater qu'il y a un islamisme radical qui conduit à nier les lois de la République.
Catherine Ney, les députés de gauche disent que le discours d'Emmanuel Macron, à l'époque, avait été bien reçu, mais qu'aujourd'hui, il était borgne parce qu'il ne traite pas de la ségrégation, du séparatisme social, de la mixité scolaire. Vous entendez cette critique?
Oui, mais cette loi, elle a à la fois la critique de la droite et de la gauche. Hein. Alors, je trouve que la gauche, c'est peut-être celle qu'on a le moins entendue pendant le débat et que la vraie révolte, elle venait de la droite parce que, justement, on avait cédé sur le voile et que l'essentiel, presque, n'avait pas été abordé. Alors que, comme vous le dira tout à l'heure Charles, il y a un élément essentiel dans cette loi, c'est que les mosquées, l'argent des mosquées sera contrôlé à terme, espérons-le, si vous voulez. Mais voilà, est-ce que la loi a trouvé un équilibre entre ce que disait Darmanin, c'est entre la naïveté des uns et l'hystérie des autres? Je ne sais pas.
Alors vous l'évoquez, il y a toute une batterie de mesures hein, dans ce texte, l'instruction scolaire, le contrôle renforcé des associations et Charles Villeneuve, donc la meilleure transparence des cultes et de leur financement.
Mais rappelez-vous le discours des Mureaux, justement, vous venez d'en passer un extrait. L'influence étrangère sur l'islam de France est considérable parce que c'est eux qui alimentent le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Or, le dispositif qui est prévu, c'est de tracer l'argent d'où il vient, de contrôler les comptes, y compris des associations cultuelles. On a bien vu au moment de la décapitation de ce malheureux professeur d'histoire, Samuel Paty, qu'il existait des associations qu'on ne contrôlait absolument pas. et qui relayait justement tous les discours qui ont poussé à l'assassinat monstrueux de ce pauvre professeur. Bon, eh bien, alors c'est vrai que les associations cultuelles, notamment catholiques, chrétiennes, protestantes et juives, eux, se tombent sous les fourches codines, si vous voulez, de ce contrôle. Et c'est vrai que jusqu'à présent, vous déposiez les statuts d'une association cultuelle à la préfecture, qu'on vous accordait automatiquement l'existence de cette association. Là, le préfet a 2 mois pour examiner tous les comptes et les personnalités qui font partie des statuts et de la présidence et peut, de toute façon, réfuter l'existence de cette association.
Charles Villeneuve, vous faisiez référence à la décapitation de Samuel Paty. Il y a un article qui a été voté à l'unanimité cette semaine à l'Assemblée nationale. C'est ce nouveau délit qui fait courir 5 ans de prison pour toute intimidation contre un agent du service public. Preuve, Gérard Carreau, qu'il peut y avoir unité nationale autour de ce texte.
Oui, c'est tout à fait. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait unité autour de ce texte. Mais moi, puisque vous parlez de Paty, de ce pauvre professeur Paty, Samuel Paty, moi, ce qui m'a choqué dans ce qui s'est passé ces dernières semaines en France, c'est que là où on a voulu nommer un établissement scolaire du nom de Samuel Paty, qui est une victime de la barbarie, effectivement, terroriste islamique, eh bien, on a eu quoi? On a eu une réaction des parents d'élèves et du corps enseignant. On peut comprendre que les parents se disent « Oh là là, c'est pas la peine d'attirer le projecteur sur nous, ça va ». Mais quand on réagit comme ça dans un pays, et quand on voit que les profs ont commencé à s'auto-censurer lors des cérémonies en l'hommage de ce professeur, auto-censure avec des centaines de refus, effectivement, de participation des professeurs, en disant « vaut mieux calmos », eh bien ça, ça prouve que l'apaisement, c'est la mère nourricière de la soumission. Quand on commence à dire au nom de l'apaisement, pas de vague, eh bien, on tombe directement dans la soumission.
Michel Cotta.
Je fais juste un bémol sur les professeurs, hein, parce que faut pas être en leur place. Hein. Vraiment, pour le moment, je comprends qu'après Samuel Paty, de temps en temps, c'est tout le... Effectivement, c'est terrible pour la République et pour les principes de la République, mais faisons un truc à part, un traitement à part pour ces... pour ces professeurs qui sont confrontés quand même à la mauvaise humeur, si j'ose dire.
À la violence des élèves et aux menaces.
Non, mais bon, donc, de donc, leurs parents.
Mais moi, ce qui m'étonne dans cette loi, c'est quand même la réaction à gauche de Mélenchon, qui est quand même... qui joue le parallèle entre le catholicisme et... l'islamisme qui défend les religions, alors que moi, je ne sais pas, je le croyais athée. Et même,
non, il est islamo-gauchiste aujourd'hui, alors donc il n'est pas athée.
D'un seul coup, c'est une attaque. Et de l'autre, les propositions faites par la droite républicaine sont quand même mineures. Je veux dire, on ne peut pas les prendre en considération. Un référendum pour instruire, pour ajouter dans la loi. Dans le référendum, quelque chose... Bon, ça prend un temps fou, le référendum, et puis on sait bien que ça ne marchera pas. On sait bien qu'il n'y en a pas le temps. Et ce qu'ils proposent d'autres sur ce voile, je suis d'accord, c'est le problème numéro un, mais je ne pense pas que c'était le problème numéro un de cette loi.
Dans ce texte.
Pour conclure, je peux citer Eric Coquerel sur le voile, qui a dit, mais tout de même... Le voile d'une mariée chrétienne, oui, c'est quand même la marque de la soumission à l'homme.
Alors pour conclure, je ferai une autre citation, celle d'Aristide Briand, qui portait le texte sur la loi de laïcité en 1905. La loi doit protéger la foi tant que la foi n'entend pas dicter la loi. Voilà, on s'arrête là pour ce débat sur le projet de loi sur les séparatismes. Et dans un instant, on se retrouve pour le dernier thème du jour, Navalny, la Russie et l'Europe, avant votre coup de projecteur consacré au livre d'Étienne Moujotte. À tout de suite, les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h. Sébastien Guyot.
Et notre dernier débat consacré aux relations entre la Russie et l'Occident après le retour en Russie d'Alexeï Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine, condamné cette semaine à 2 ans et 8 mois de prison. Catherine Ney, vous nous en parliez ce matin dans votre édito dans la matinale. C'est pas facile la diplomatie entre l'Union européenne et la Russie. On a vu Josep Borrell, le chef de la diplomatie, jouer l'équilibriste hier.
Il a joué ce qu'il a pu parce que franchement, ça faisait 3 ans que les Européens n'avaient pas vu. S'était pas rendu à Moscou. Il a rencontré le ministre des, des affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, qui avait l'air d'une porte de prison et qui le regardait comme d'un moustique qui le gênait. Bon, ben, il a dit, c'est vrai, nos relations sont au plus bas. Bon, et puis ça ne s'arrange pas. Il l'a reconnu. Mais parce que, eh bien, en ce moment, les relations sont toujours difficiles, et depuis longtemps avec la Russie. Mais là, il y a un caillou dans la chaussure qui est Navalny, qui a été un opposant qui était un gêneur et qu'on a voulu tuer en l'empoisonnant. Ça n'a pas marché. Et qui s'est vengé, en quelque sorte, mais au péril de sa vie future, d'ailleurs, je pense, eh bien, en faisant diffuser sur YouTube un film où on a vu que Poutine n'était pas du tout ce héros ascétique qui ne pensait qu'au bien de la Russie, mais un type corrompu qui vivait dans le luxe et qui avait une vie privée agitée, enfin tout ça.
Avec
qui
un
fait
château
que
estimé à 1 milliard.
Donc corruption à un moment où le PIB par habitant de la Russie, c'est moins que le Portugal. Donc je ne sais pas si l'empoisonneur aura ainsi diffusé un poison, vous savez, comme on dit,
se retrouver en prison, c'est se jeter dans la gueule du loup, mais c'est un peu une stratégie à la Nelson Mandela, quelque part.
Oui, écoutez, franchement, je ne comparerai pas Navalny. Je n'ai pas d'animosité à l'égard de Navalny. Je pense que c'est une victime. C'est une victime, effectivement, d'un régime qui n'est pas un régime démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le problème, ce n'est pas ça, pour moi. C'est devenu un symptôme, et c'est devenu l'illustration de quelque chose qui est grave pour la France, qui est un refus, effectivement, de considérer que la Russie, il ne s'agit plus de l'Union soviétique, avec laquelle on a continué tout au long des 30 dernières années. Moi, j'ai accompagné des présidents français à Moscou, et on allait discuter joyeusement, mais avec Brejnev et avec les autres. Bon, là, si vous voulez, tout d'un coup, depuis 15 ans, il y a une sorte de rideau, alors c'est pas de fer, peut-être, qui est tombé, entre la France et la Russie. Et systématiquement, la diplomatie française prend le contre-pied des initiatives ou de la diplomatie. On ne cherche pas à normaliser. Souvenez-vous quand même qu'à l'époque de Hollande, l'époque de Hollande et de Fabius, ça a atteint son paroxysme. Oui, oui. Mais ça l'avait déjà un petit peu atteint avec Sarkozy. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Notre diplomatie est dominée par ce qu'on appelait autrefois les droits de l'hommisme, dans la filiation de Bernard Kouchner, l'a érigé les droits de l'homme. Tout d'un coup, donc, on veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes et Navalny pour Mandela. C'est ce que vous étiez en train de suggérer. Je ne pense pas qu'il y ait de comparaison entre les deux. Et du coup, on évite de traiter le problème. Moi, je pense, comme le général de Gaulle, il faut avoir une politique équilibrée entre l'Amérique de Biden et la Russie de Poutine, même si on peut avoir des sympathies pour le système démocratique des uns et de la condamnation pour le système non démocratique des autres. Ce sont des grandes nations. La France doit trouver des relations équilibrées entre ces pays.
Gérard Carreau, vous faisiez allusion à la diplomatie. Il y avait cette semaine sur Europe 1 le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il a dit que c'était au président Poutine de prendre les initiatives, mais qu'il voulait garder un lien de dialogue à la fois ferme et réel. Là encore, équilibrisme difficile à trouver.
Oui, mais Gérard a raison en critiquant la France de ce point de vue-là, ou la stratégie française, mais il faut dire que c'est une stratégie européenne. Et notamment, depuis des années, on n'entend parler que des sanctions, contre les Russes, sanctions complètement imbéciles, parce qu'elles sanctionnent nos entreprises et notre agriculture, et pas tellement les Russes. Il reste que quand même, se débrouiller pour, quand on reçoit en Russie l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères européen, se débrouiller pour ficher à la porte trois diplomates européens.
Allemands, suédois.
Allemands, suédois qui, soi-disant, n'avaient rien à faire dans la manifestation avec Navalny, mais enfin, on suivit la manifestation. Donc, c'est quand même une façon pour Poutine de dire le patron, c'est moi. Vous avez besoin du vaccin.
Non, mais c'est un message.
Ce que je veux chez moi.
Sputnik V, Charles Villeneuve, qui est quand même un moyen de géopolitique, de pression géopolitique.
Oui, non, mais d'abord, en ce qui concerne l'expulsion des trois, c'est très important parce que c'est très réfléchi de la part des Russes. Il faut savoir qu'on ne modifiera jamais le système de pouvoir des Russes depuis les tsars, en passant par Staline. Poutine est dans la même foulée, de toute façon.
Oui, mais là, ça s'accuse plutôt.
Mais bien sûr, ça a toujours été ça. Parce que sous les soviétiques, tu crois que c'était quoi?
C'est
une provocation réfléchie de la part des Russes. C'est un message très clair, si vous voulez, à l'égard de l'Union européenne. Ces expulsions, la répression ne diminuera en rien, de toute façon. je ne ferai aucune concession. C'est ça que ça veut dire. Quand,
je suis le maître, quand, je suis le maître de la Russie.
Exactement, exactement. Mais de toute façon, l'Union européenne est désarmée parce que Mme Merkel, par exemple, justement, elle est pour le projet du gazoduc parce que ça va doubler l'alimentation en gaz de l'Allemagne. Donc, l'Union européenne n'a pas de front commun par rapport à la Russie. Mais ce qui est essentiel, et je termine avec ça, ce qu'a dit Gérard, c'est de maintenir l'axe Paris, Berlin, Moscou et Pékin. Sinon, on sera
écoutez,
hors
on
jeu.
En est loin. Hein, on en est loin.
Et
pour
on va s'arrêter là, si vous le voulez bien, sur ce dossier Les Grandes Voix, pour que vous ayez un petit peu de temps pour parler du coup de projecteur. Vous vouliez parler les uns les autres de ce livre que j'ai entre les mains, Pouvoir, signé Étienne Moujotte, que vous connaissez bien et qui est passé avec vous sur Europe 1. Qui veut commencer?
Ben écoutez, c'est très simple. On a travaillé, en tout cas, en ce qui concerne Gérard et moi, et Michel, bien sûr, et Catherine, évidemment.
Donc, tous les quatre.
Nous, en tout cas, depuis 36 ans, on a travaillé 36 ans avec Étienne Moujotte. Et Étienne Moujotte, ce livre, c'est l'histoire d'une aventure sans précédent qui couvre une cinquantaine d'années de médias, et tous les médias, qu'ils soient audiovisuels, presse écrite, radio. Et il ne faut pas oublier qu'il a amené cette maison au pinacle, au plus haut niveau de l'écoute radio, lorsqu'il est parti en 81.
Gérard Carreau.
Oui, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand j'étais à Europe, souvent les confrères me disaient « Ah oui, toi, tu fais partie de la bande à Moujotte. »
C'était vrai, non ?
Pardon ?
C'était vrai, non ?
Non, mais attendez, je vais m'expliquer, ma chère Michel. Ça veut dire que dans le milieu professionnel, les journalistes, c'était pas une critique, comme on disait, la bande à Pierrot le Fou. Hein. Quand on parlait de la bande à Moujotte, c'était plutôt le symbole d'un groupe de journalistes qui avaient effectivement travaillé longtemps ensemble et qui, après cet épisode d'Europe 1, se sont retrouvés, pour l'essentiel d'entre eux, à TF1, où ils ont à peu près fait la même chose, c'est-à-dire continuer à travailler en équipe avec lui. Et ce qui était formidable, cette capacité de Moujotte à rassembler, à détecter des gens, à aller chercher Catherine Ney, à aller chercher Anne Sinclair, à aller chercher des gens à l'extérieur, et puis en faire des purs produits européens, puis ensuite des produits... C'était formidable, je trouve, de l'avoir fait. Je ne connais pas d'autres exemples.
Votre regard,
Michel Cotta. Moi, je n'étais pas à Europe 1 avec Étienne Moujotte.
Dans la même...
Mais à TF1. Et moi, j'ai toujours admiré sa façon de diriger quand même une boîte comme ça, qui était quand même très difficile. Et surtout, ce qui me reste, moi, comme souvenir, c'est sa faculté à dénicher ce qui allait marcher. Quel produit allait marcher? Quelle fiction allait marcher? Quel genre d'information? Et ça, c'est vrai qu'à Europe 1, à TF1, en tout cas, il ne s'était pas trompé.
C'est pour ça qu'on l'avait surnommé le sorcier.
Et vous, Catherine Ney, votre regard sur Étienne Moujotte?
Mon regard, c'est l'homme qui m'a engagée à Europe 1, donc qui m'a fait confiance et qui a été, je trouvais, un patron de rédaction extraordinaire. D'abord, son bureau donnait sur la rédaction. Il y avait un rideau quand il voulait qu'il fermait, un rideau mécanique qu'il fermait quand il voulait s'isoler, recevoir des gens. Mais autrement, c'était ouvert, il surveillait tout. Et surtout, ce qui était extraordinaire, c'est que d'abord, il aimait la politique plus que tout, et on pouvait entrer dans son bureau pour en parler avec lui, trouver des angles de papier, et c'était voilà. Et il nous a appris le métier. Il était à la fois très 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 ouvert, mais très contrôlé aussi beaucoup les choses. Ouais, il punissait. Et il félicitait.
50 ans au cœur des médias, TF1,
salut, Étienne,
Europe 1, Le Figaro,
salut,
Pouvoir, c'est écrit par Étienne Moujotte, voilà. Chez Kalman Lévy. Merci Les Grandes Voix, merci à Jean-Luc Arblade à la réalisation, merci à Capucine Patouillet qui m'a aidé à préparer cette émission. Vous retrouvez ce débat des Grandes Voix en podcast, bien entendu, sur Europe 1.